Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 4 de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on parle de Disney à travers les âges. Mais avant de commencer, on va poser la question la plus importante du monde à notre invité. T'es qui, toi?
It's me, Marjo!
Meilleure présentation ever!
Je vais me la faire tatouer un jour, c'est sûr.
Ou à quel endroit? Telle est la question.
Probablement ici, avec ma face, avec le chapeau de Mario dessus.
Je tiens à préciser pour ceux qui ne font que nous écouter qu'elle montrait le haut de son torse de femme. Façon polie de dire père de saint.
Le dit, trop tard.
Je sais, qu'est-ce que tu veux? Donc, aujourd'hui, on parle de Disney, Marjo, c'est bien ça?
Oui, exactement, mais plus précisément des princesses. On est dans un ère où on remet beaucoup tout ce qui est la féminité en question, mais aussi c'est quoi la place de la femme, le rôle de la femme dans la société. Puis, veux pas, comme beaucoup d'enfants, on écoute les films de Disney, les petits bonhommes, et le rôle des princesses a joué depuis des générations un gros rôle dans l'identité qu'on se faisait de nous en tant que filles, en tant que femmes en grandissant, puis comment ça nous affecte encore aujourd'hui. Mais je veux aussi qu'on aborde qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces films-là malgré tout, et que comment on peut l'introduire à nos jeunes garçons comme filles, comme tout ce qui est entre les deux, et comment eux peuvent aller chercher ce qu'il y a de bien dans ce que les films essaient de nous présenter, puis de laisser de côté peut-être la partie qu'on aime moins, c'est-à-dire de comprendre que ça reste quand même un film, que ça reste quand même une fantaisie, mais que le message que ça peut véhiculer peut être quelque chose de positif.
Puis aussi de voir qu'est-ce qui est bon, puis quoi apprendre à dire que, tu sais, oui, ça, dans un monde de fantaisie, c'est bien, mais dans la réalité, c'est pas la même chose.
C'est ça, puis on va aussi beaucoup aborder la différence et les similitudes entre les anciens films et les remakes qui ont fait depuis quelques années déjà et qui vont continuer de faire, j'en doute pas. Donc, un peu d'aller voir qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qu'on a essayé d'apporter de nouveau, qu'est-ce qui est mieux, puis qu'est-ce que moi, j'aurais fait. Parce que moi,
t'as la vérité ultime sur les films de Disney.
Oui, oui. Oui. Mais, le reste, non, pas oui.
Mais sincèrement, je vais être honnête, de toutes les amies et de toutes les personnes que je connais, t'es quand même ma spécialiste de Disney. Je veux dire, t'es la personne que je connais qui s'en connaît le plus.
Oui. De Harry Potter aussi, mais le sujet était déjà pris. Fait que...
On sent un petit peu de rancœur ici.
Je sais pas t'es qui... Mais m'a trouvé. Je vais bâcher ton épisode. Fait que, donc, en fait, on a trois générations un peu de princesses. On a, bon, la première génération, c'est vraiment la princesse type. On va aller chercher Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant. C'est vraiment une princesse qui joue un rôle extrêmement secondaire dans sa propre histoire. Elle est là, un peu comme... plus ou moins comme figurante, et elle n'a pas vraiment de personnalité. Personnellement, Blanche-Neige, qui a été le premier film de Disney, c'est la princesse que j'aime le moins, parce que mon Dieu que je la trouve niaiseuse.
Ben...
Remise en contexte, elle a 14 ans.
Oui.
Mais je veux dire, c'est la princesse que je trouvais le plus insipide.
Elle a 14 ans?
Oui, Blanche-Neige a 14 ans.
Ah, OK.
C'est la plus jeune de la gang.
Information que je ne savais pas. Moi, j'aurais donné 36 ans, mais bon, c'est correct.
Donc, tu sais, on parle, on va parler aussi de la deuxième génération de princesses. Là, c'est, on garde un peu le même type, mais on lui donne plus de personnalité. Là, okay. On va parler la petite sirène, la Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas et Mulan.
OK.
C'est comme je dis, c'est une personne. Elle a un peu plus de profondeur comme personnage, un peu plus d'émotion, un peu plus d'histoire, mais on reste dans les mêmes moules. Si
le background typé, comme tu disais là.
C'est ça, exactement. Et là, la troisième génération, c'est la princesse qui n'est plus vraiment une princesse. C'est-à-dire qu'avant ce jour-là, la princesse, elle était un peu comme née princesse, si on veut. C'était born and raised.
Oui.
Là, on va chercher d'autres types de princesses. Elle n'est pas nécessairement une princesse au début ou à la fin, ou des choses comme ça.
Ben, donc, un peu comme Elsa, qui est une reine. On s'excuse.
Oui, mais le film de Frozen, de la Reine des Neiges, oui, c'est Elsa, mais c'est beaucoup plus le cheminement de Anna.
Anna,
elle est effectivement une princesse, mais je veux dire, elle est plus comme la deuxième dans la lignée. Là, si on veut.
Ouais.
Mais bon. Okay. Donc, c'est ça. La première génération, comme je disais, c'est vraiment la princesse type. C'est vraiment, dans le fond, l'image idéale de la femme. On s'entend qu'à cette époque-là, Disney, c'était pratiquement que des hommes qui travaillaient là. Donc, tu sais, ça va être une femme blanche, mince, belle. Puis dans le fond, c'est qu'elle gagne seulement... Elle gagne...
Avec seulement sa beauté.
Oui, mais c'est seulement quand elle arrive à attirer un homme puissant. Parce que à travers l'image de la princesse, on a l'image du prince aussi, qui est un homme fort, puissant, courageux, beau, gentleman, on va le mettre en guillemets parce que on n'a plus le même gentleman, là.
Non, ça c'est sûr et certain. Ben, tu sais, juste avec tout ce que tu dis, comme tu disais, Blanche-Neige, c'est l'exemple parfait. Genre, même qu'il insiste sur le fait que sa peau est blanche, plus blanche que blanche. Elle fait du ménage pour cet homme.
Ben c'est ça, ça fait aussi partie ça fait aussi partie du type de cette princesse-là, c'est que c'est une ménagère.
Ah ben oui, Cendrillon aussi.
Cendrillon, puis même la Belle au bois dormant, Aurore, on la voit pas nécessairement ramasser la maison des bonnes fées, mais tu comprends quand tu vois essayer d'aller sans magie faire un gâteau, tu comprends que c'est probablement plus Aurore qui s'occupait de la maison, et tu sais, c'est elle qui va cueillir des baies pour faire des tartes et tout ça. Tu sais, c'est... Elle a un rôle vraiment de petite femme au foyer, dans sa petite maison, dans le bois, puis...
Qui va faire les tâches, là, la nourriture, le ménage,
c'est ça.
Comme tout bien préparé pour ses hommes.
C'est, ben, son.
Son, ben, dans Blanche-Neige, elle en a 7 quand même.
Oui, c'est ça, elle était occupée. Mais c'est ça. Dans la deuxième génération, encore une fois, le type change pas tellement. Ça reste quand même belle, blanche. Avec Pocahontas et Mulan, ça l'a un peu changé. On est allé chercher une ethnicité différente, sauf que, je vais le dire, ça reste du monde à la peau pâle.
Oui, mais tu sais, puis même si c'est une ethnicité différente, ils l'ont blanchi pas mal aussi, je veux dire.
Oui.
Si on va dans la réalité des choses, Pocahontas n'aurait pas agi de par sa culture, de par sa culture, puis de où qu'elle vient. Il y a bien des affaires qu'elle n'aurait pas faites dans le film, là, je veux dire.
Non, c'est ça. Mais on
est en amour avec ce gars-là, premièrement. Arc! Excuse-moi. Ça, c'est...
On essaie quand même d'insister sur... Ce qui fait d'une princesse une bonne femme, ça serait qu'elle obéisse, qu'elle soit à la maison, qu'elle s'occupe des... Donc, les princesses, c'est des gens très généreux, très altruistes, c'est des bonnes qualités à avoir, sauf que là, on tombe carrément dans l'oubli de soi-même. C'est carrément
ben,
ça.
Comme Belle, qui est complètement, là, comme devient à la merci un petit peu de la bête, dans le sens où, pas vraiment, mais comme... Justement, elle se met à faire tout plein d'affaires autour du château, tout ça, parce qu'elle veut éviter la bête au début, mais comme ça reste quand même ce côté-là ménagère de je fais des affaires, qui est comme j'occupe mais, mon temps avec mes capacités de femme.
Mais quand tu regardes que, bon, elle est enfant unique, elle habite avec son père qui est veuf,
oui.
Quand tu regardes comment son père gère son atelier, tu comprends que la maison n'est pas propre comme ça parce que son père fait du ménage, tu sais.
Ça, c'est sûr.
Mais, en même temps, Belle, c'est ma princesse préférée.
Moi aussi, je ne la jugerai pas, là. C'est moi aussi ma princesse préférée. Oh!
Oui, mais c'est ça. Donc, dans les deux première génération de princesse, le rôle de la princesse est défini par le rôle du prince. C'est-à-dire que l'histoire de la princesse s'en va vers l'idée que ça y prend un prince et elle n'a pas accompli sa mission sans le prince. Et dans le fond, elle n'a pas de mission si elle n'a pas de prince.
Puis il y a aussi ce côté-là, je trouve, dans la deuxième génération où, genre, c'est comme je m'accomplis en tant que femme si je trouve le prince ou l'homme de ma vie, genre, comme Pocahontas puis Mulan. Puis on dirait que c'est comme si, genre, ils sont plus que, tu sais, genre, c'est comme ils sont nécessaires à l'homme de posséder, genre, aussi, genre. Je sais pas ce que je veux dire, mais pas comme une personne, plus comme une possession, genre. Je sais pas si ça fait sens.
Oui, c'est ça. Dans la troisième génération, là, on aborde une autre chose. On veut rendre la princesse plus indépendante. On la présente comme étant quelqu'un par elle-même. Mais ce qu'on nous apporte à ce moment-là, c'est un autre genre de prince. La princesse ne changera pas pour le prince. Le prince va changer pour la princesse. Et oui, on présente une image de femme plus indépendante, justement, plus à l'écoute d'elle-même, sauf qu'on présente l'image où que si l'homme t'aime, il va changer. Mmh. Alors que c'est tout aussi néfaste, autant pour les filles que les garçons, de se dire, là, c'est le gars qui va se dire, il faut que je change pour avoir une princesse. C'est, ça présente un peu des relations pas égalitaires. Ouais.
C'est sûr qu'à la base, une relation, c'est vraiment les deux qui... Premièrement, qui s'aiment et qui font des compromis l'un avec l'autre. Là, ça, c'est clair et net et précis. Et j'avoue qu'en ce moment, tu sais, mais je pense que peut-être qu'ils ont été tellement dans un extrême avec les premières générations de princesses que là, ils ont fait ce qu'il ne faut pas nécessairement faire. Mais au lieu d'aller dans le juste milieu, ils ont été dans l'autre extrême. Tu sais, comme ça demande quand même peut-être un ajustement aussi. Tu sais, ça, c'est...
Ben, c'est ça. Par contre, on voit le désir de Disney et des mondes, du monde des dessins animés de changer. Si on regarde Brave,
oui.
Tout le concept de ça y prend un prince, puis là, ils doivent concourir pour la princesse, mais qu'elle a fait non, moi, je vais concourir pour ma propre main, puis parce qu'elle, elle veut se marier par amour, puis son prince charmant n'est pas là.
Non, c'est
elle n'est pas, il n'est pas dans la gang de gars qu'on lui présente. C'est juste un jour, ça va arriver, mais pas aujourd'hui.
Puis, il n'insiste pas sur l'histoire d'amour non plus. Il insiste sur la relation plus mère-fille dans cette fille.
Exactement. La famille et tout ça. Donc, ça, c'est un beau film, je trouve, justement, oui. Et on va se le dire, j'adore ses cheveux. Mais c'est un beau film dans ce sens-là aussi. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller changer ça. Des fois, c'est fait avec plus de finesse, des fois, un peu avec moins. Mais ça, on va les voir plus tard dans mes petites fiches.
Oui. Bien, c'est comme sûrement que tu vas peut-être en parler. Là. Je ne sais pas si je saute sur un sujet d'avance, mais un peu sûrement. Comme dans la Reine des Neiges, où il montre les deux types de relations, celle avec le prince cliché, puis celle avec un homme un peu plus vrai. Là.
Mais c'est ça, oui, on va l'aborder à la fin.
On va revenir de bord.
Là, dans le fond, on va y aller, mais on va comparer un peu les anciennes histoires avec les nouveaux films. Okay. On va y aller en ordre chronologique.
Oui.
Les affaires sont en ordre. Donc, on va commencer avec Blanche-Neige, parce que dans le fond, Blanche-Neige, ça a été le premier en 1937. Et moi, je vais la comparer avec le film de Blanche-Neige 2012, celui avec Julia Roberts.
Miroir, miroir?
Non, Blanche-Neige.
Ah, ça s'appelait Blanche-Neige?
Oui, Blanche-Neige.
Parce que je sais qu'ils ont fait Blanche-Neige et The Huntsman. Ils en ont fait quelques-uns, là, je ne sais pas trop lequel et lequel. Là.
Il y en a fait quelques-uns, mais je trouvais que cette histoire-là de Blanche-Neige, celle avec Julia Roberts, elle suivait plus le fil d'un film pour enfants encore. Donc, okay. Ça s'appelait quand même à la même audience, dans le fond. Okay. Et comment ils ont vraiment... Même si c'est encore pas ma princesse préférée, même si c'est pas encore mon film préféré, comment ils ont vraiment remis le pouvoir à Blanche-Neige, mais où est-ce qu'ils ont eu des lacunes aussi par rapport au message qu'ils veulent passer?
Je vais être honnête, je vais te laisser aller tout seul parce que je pense pas l'avoir vu, pour être honnête.
Shame on you. Mais tu sais, il est très humoristique, là. C'est pas juste du sérieux, là. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, beaucoup de nouveautés aussi. Julia Roberts, là-dedans, oui, elle joue la méchante reine, mais en même temps, elle est tellement... comment je dirais ça? Elle est tellement imbue d'elle-même, elle est tellement pompeuse, puis tu sais, il faut que ce soit le luxe, et puis là, ça y prend un jeune prince parce qu'elle se trouve encore donc belle et tout ça, mais elle a le plus d'argent. Donc, tu sais, c'est vraiment... Le personnage de la méchante reine là-dedans, en soi, est vraiment un bon personnage. Moi, j'ai adoré, en tout cas.
C'est un peu comme s'il avait pris, genre, la belle-mère méchante d'Hollywood pour la transférer à Disney, genre.
C'est ça, un peu. Donc, dans le fond, comme on disait tantôt, Blanche-Neige, bon, ben, elle est démunie. Hein? Elle se fait chasser du château, puis elle finit par s'endormir dans la forêt. Elle est démunie, elle est niaiseuse, elle est stupide. C'est carrément ça, mais je veux dire, elle est naïve. Puis c'est une bonne ménagère. C'est ça, elle est belle et elle tient bien maison. C'est ce qui fait que les nains vont la garder. C'est quand tu la trouves endormie, elle est donc jolie. Puis avant ça, quand elle est arrivée, tout était en ordre, tout était propre, tout était ci, tout était ça.
Elle a fait le ménage, écoute.
C'est ça.
On la garde-tu?
J'allais faire une joke de mauvais goût, je vais te la dire en privé.
OK.
Belle version de ce film-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que, bon, oui, on part quand même du personnage Blanche-Neige. Dans le fond, elle est prisonnière du château avec la reine. Elle ne connaît rien du monde extérieur, elle est naïve, mais elle veut y aller. Elle veut sortir, elle veut aller voir son peuple parce que, dans le fond, c'est le royaume de son père. Son père qui a disparu il y a des années quand il s'est marié avec la reine, dans le fond. Et dans cette version-là, c'est le prince qui devient la victime.
Okay.
C'est le roi qui devient la victime. Dans le fond, à la fin, on apprend que la méchante bête qui se croise, je m'excuse, spoiler alert pour toi, David, mais la méchante bête qui se cache dans le bois, en fait, c'est le roi que la reine a ensorcelé et qu'elle contrôle à l'aide de la magie. Et okay. Son père va être sauvé dans le combat de la fin par Blanche-Neige, dans le fond.
Okay.
Un peu plus tôt dans le film, la première rencontre entre le prince et Blanche-Neige, il s'est fait attaquer par les nains, il s'est fait voler par les nains, et Blanche-Neige le retrouve avec son écuyer pendu par les pieds. Donc, c'est Blanche-Neige qui coupe la corde pour sauver le prince. Et le prince, imbu de lui-même, encore un peu, il dit « Non, c'est beau, j'ai pas besoin de ton aide. » Puis « Ah, détache la corde, tu me le dois parce que c'est moi le prince. » Il est un peu comme ça.
Alors que c'est
C'est ça. Puis, alors que son écuyer est comme « Tais-toi, tais-toi, mademoiselle, s'il vous plaît, vous seriez vraiment gentille de nous aider. » Donc, tu sais, encore là, il y a beaucoup d'érision, mais on a transformé le prince vaillant en prince un peu nono.
Puis imbu de lui-même, là.
C'est ça. Puis là, ben ils n'ont plus de vêtements, ils se sont fait dépouiller de leurs vêtements, il est juste en bobette, tu sais, en plein hiver. Et il se rend au château de la reine en bobette.
C'est pour ça que son ego a rétréci.
C'est ça, exactement. T'sais. Mais là, lui, il a eu un coup de foudre pour Blanche-Neige parce qu'il l'a vu, puis était donc belle dans son beau manteau jaune et tout. Mais là, la reine, elle a vu se marier avec le prince. En tout cas, là, c'est toute l'histoire du film. Quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les premières générations, c'est le manque de consentement.
Ouais.
C'est ce qu'on va reprocher, entre autres, à Blanche-Neige et à la Belle au bois dormant, parce que dans la première version, Blanche-Neige, elle est carrément couchée et elle doit être embrassée par le prince.
Mais
étant inconsciente, elle est incapable de donner son consentement. Donc, il y a un peu ce côté-là qu'on remettait en question. Dans la nouvelle version, c'est l'inverse. Le prince a été ensorcelé par la reine
ouais. Pour
être en amour avec elle et pour le libérer de ça, il doit recevoir un baiser d'amour.
OK.
Et là, les nains vont attacher le prince à une chaise. Et bon, ils vont mettre du petit rouge à lèvres à Blanche-Neige, peigner ses cheveux et tout ça parce que c'est son premier baiser. Et c'est elle qui doit donner son baiser d'amour au prince. Mais le prince se débat littéralement sur la chaise parce qu'il veut pas.
OK.
On comprend que c'est de l'humour. On comprend que c'est de twister la situation en deux, mais il y a encore toute l'idée de consentement aussi.
Oui, parce qu'il ne l'a pas donné pantoute.
Puis c'est pire qu'il n'est pas inconscient.
Il ne veut pas.
Il ne veut pas. Mm-hmm. Il est ensorcelé. D'où l'idée qu'il faut vraiment être critique quand on regarde ces films-là, c'est de comprendre, de faire comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si quelqu'un te dit « non, je ne veux pas »,
il n'y a aucune chance qu'il soit ensorcelé et que ce soit la manière de le sauver.
Exactement. T'sais. Puis s'il est drogué, t'agis pas.
Exactement.
T'agis pas. Donc, c'est ce que j'ai aimé, puis en même temps, pas aimé. C'est qu'on renverse le rôle. T'sais, pendant le court laps de temps qu'elle est chez les nains, Blanche-Neige, elle apprend à se battre, elle se libère de sa robe, elle met des pantalons, puis là, elle devient hors-la-loi avec eux. Puis là, il y a le côté un peu Robin des Bois qui arrive, c'est qu'il vole les pauvres, qui ramène l'argent à la reine pour le remettre au peuple qui est mourant de famine parce qu'elle prend tout l'argent qu'elle peut. Donc, il y a ce côté-là, justement, Blanche-Neige a beaucoup plus de pouvoir sur sa vie, beaucoup plus de pouvoir sur sa décision. Puis au final, c'est elle qui sauve le royaume. C'est elle qui détruit la reine, qui ramène son père, qui sauve le prince. Donc, il y a ce côté-là que je trouve quand même...
Fait que dans le fond, il y a plus un côté genre de « oui, j'étais naïve, je connaissais rien de la vie quand je vais au château, mais j'apprends à me découvrir, j'apprends à découvrir qui je suis, puis à trouver d'autres facettes de ma personnalité, puis comment « rape un kiss à un prince ».
C'est ça, exactement.
OK.
Exactement. Ensuite de ça, deuxième film, La Belle au bois dormant. Là, La Belle au bois dormant, je le compare avec le film Maléfique. Je sais que c'est pas exactement la même... Mais c'est la même histoire, mais montrée...
D'un point de vue différent.
Exactement, exactement. Donc, La Belle au bois dormant, on reste dans le même type de princesse. Donc, elle est belle, elle est blonde, elle est mince, elle a une voix magnifique, les oiseaux chantent avec elle. Puis, elle est un petit peu beaucoup naïve aussi. T'sais, elle a 16 ans, puis là, à 16 ans, elle est prête à vivre le monde. Là.
C'est, oui.
Elle dit, mais j'ai 16 ans, j'ai le droit d'embrasser le prince si je veux. T'sais.
Oui, bien, il faut dire qu'à cette époque-là, à 16 ans, tu étais mariée et tu avais 15 enfants. Là.
C'est ça, exactement. Là, c'est sûr, je vais le dire, on ne réécrit pas un classique. On ne peut pas changer l'histoire de Blanche-Neige, on ne peut pas changer l'histoire de La Belle au bois dormant. Donc, en réécrivant le film, il y a des thèmes qui vont revenir. Donc, l'idée que, justement, Aurore est, justement, naïve, blonde, belle. Elle voit la vie en rose, dans le fond, parce qu'elle a été élevée dans un petit cocon. Là, on nous montre un peu plus le côté de Maléfique. Puis, on aborde encore la question du consentement. C'est qu'au début, le roi, Stéphane, il va droguer Maléfique pour lui couper ses ailes. Donc, ça fait un peu partie aussi de ça, de toute l'histoire de pour obtenir ce qu'il voulait, il a fallu qu'il la drogue. Encore une fois, c'est un film.
Mais je pense que c'est exactement ce qu'il voulait montrer. Je pense qu'il voulait montrer que c'était une forme de viol, ce qu'il a fait à ce moment-là. Je pense
c'est
que
c'est ça
qu'il voulait montrer, que c'était pas bien, que c'était non, mal.
Mais c'est que on le retrouve dans la thématique du film, dans le sens que c'est encore un prétexte. Ouais. À l'histoire.
Oui. Mais abordé d'une meilleure façon, peut-être.
Ça dépend de comment on le regarde. Si on le regarde juste dans le... Ça sert l'histoire de pourquoi Maléfique, elle est comme ça. Puis de le roi Stéphane, dans la première version, c'est un roi qui aimait sa femme, qui aimait sa fille et tout ça. OK, mais Maléfique, c'est quoi son histoire? Donc, on raconte un peu, puis là, ben oui, ça reste un film pour enfants, mais peut-être un peu plus mature, si on veut.
Puis ça montre justement que le roi Stéphane, c'est pas quelqu'un de bien dans le film Maleficent, genre.
Non, par contre, il y a une chose que j'ai aimée beaucoup dans ce film-là, c'est que on redéfinit le true love kiss.
Oui.
Le baiser d'amour. Oui. Parce que dans le fond, au début, Stéphane dit à Maléfique que c'est ça, un true love kiss, et il l'embrasse. Tu sais, puis on s'entend
cinématographiquement.
Au cinéma, merci. L'image, elle est très belle de Stéphane qui est debout, Maléfique, les grandes ailes qui flottent un peu, puis le baiser, c'est très beau. Et là, on se rend compte que non, c'était pas de l'amour. Je trouve que oui, ça donne une image de fais attention. C'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il t'aime que c'est réel l'amour, parce que regarde ce qui se passe ensuite. Mm-hmm. Et on fast-forward à la fin. Je veux dire, le prince Philippe a rencontré, puis on s'entend, le prince Philippe, c'est très absent de ce film-là. Il est là comme un peu plus comme figurant. Puis justement, pour amener l'idée que c'était pas de l'amour non plus, c'est-à-dire qu'ils se sont vus, ils ont eu un coup de foudre, il y a quelque chose qui a cliqué, ça c'est beau. Mais quand on vient au moment où ça doit être un amour véritable, il va l'embrasser et rien se passe. Parce que non, ce n'est pas de l'amour, c'est un kick.
C'est un coup de foudre.
Alors que Maléfique, quand elle embrasse Aurore sur le front, elle va se réveiller. Alors, on comprend que l'amour qu'elle avait pour la petite Aurore était vraiment profond. C'était quelque chose, c'est un amour, dans le fond, quasiment de mère.
Mais c'est ça. Puis justement, quand on parle d'amour véritable dans les contes de Disney avant, c'est tout genre celui de ton amour, celui du prince, celui de tout ça.
L'amour amoureux.
Exactement, l'amour amoureux. Mais c'est là où j'ai trouvé ça beau avec ce film-là, parce que c'est même pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit, mais oui, le baiser d'une mère, le baiser d'un père, ça reste un baiser d'amour véritable. C'est pas le même type d'amour, mais oui, c'est un amour véritable.
Ben c'est ça. Un thème aussi qui est abordé à nouveau par La Reine des Neiges.
Oui.
Qu'on va voir plus tard. Cendrillon. Une autre princesse un petit peu nounoune. Mais dans le cas de Cendrillon, il y a aussi tout le cas d'abus familial.
Oui.
Dans la version originale de 1950, le prince Henri, c'est un prince type.
Oui.
Aussi. C'est le futur roi, la prestance et tout ça, mais on le voit très peu.
C'est celui-là là, qu'on se moque tout le temps sur Internet. Là, on dit qu'il a l'air gay, là, c'est ça?
Probablement.
OK.
Probablement. Et Cendrillon aussi, c'est une princesse type. Donc, les oiseaux chantent avec elle. Colin, il torde son éponge pour qu'elle prenne sa douche. les petites souris coussent sa robe. Est belle. Contrairement à ses demi-sœurs, c'est une ménagère exemplaire. Quand tu regardes tout ce qu'elle a nettoyé, puis la maison, elle est spick and span, c'est vraiment la princesse type. Dans la nouvelle version de 2015, que j'adore en passant, là, on donne beaucoup plus de profondeur au personnage de Ella. On lui donne beaucoup plus de caractère et on raconte son histoire aussi, sa mère, son père, l'histoire de la belle-mère aussi. Je trouve que le rôle de la belle-mère là-dedans prend beaucoup plus de sens. Ouais. La haine qu'elle a pour Ella vient vraiment... On peut voir le moment exact où ce qu'elle se met à détester Ella, c'est quand elle entend son père dire à quel point il aimait sa défunte mère, tu sais. Mm-hmm. Quand elle explique plus tard dans le film que quand elle était jeune, elle s'était mariée par amour, puis elle a eu deux filles aussi belles qu'idiotes. Et que là, elle a décidé de se remarier pour ses filles, donc de se remarier standard, là.
Pour l'argent.
C'est ça, exactement. Pour le statut, ben cet homme-là aussi lui a été pris. Donc, il y a une aigreur en elle, mais on le comprend. J'arrive, tu sais, je l'aime pas, mais j'arrive à comprendre comment regarder l'enfant d'une autre femme dont tout le monde chante la beauté, tout le monde chante... Comment elle peut être jalouse et envieuse?
C'est comme on comprend comment, même si on n'approuve pas, on comprend comment elle en rêvait là, puis ça donne une profondeur au personnage, même si on haït cette personne-là puis qu'on lui donne pas raison. T'sais.
Oui, exactement. Mais c'est ça. Les personnages dans ce film-là, il y a eu beaucoup plus de recherches. Et ce que j'aime beaucoup du personnage de Cendrillon, de Ella, c'est qu'elle reste fidèle à elle-même et à ses convictions pendant tout le film, jusqu'à la fin. Puis, jusqu'à la fin, elle va dire au prince, c'est ça, c'est moi, est-ce que vous l'acceptez? Et le prince va dire, oui, j'accepte. À aucun moment, le prince a eu besoin de changer qui il était. À aucun moment, elle a eu besoin de changer comment ils se sont juste trouvés et se sont entendus.
Donc ça,
oui, puis ça pour moi, c'est la base d'une vraie histoire d'amour. C'est sûr que c'est romancé, c'est sûr qu'on reste dans la magie, mais le prince aussi, dans cette version-là, a un côté beaucoup plus humain. Donc on sort du gars fier, du gars imbu, de « je suis un prince ». Non, il est sensible, il est fragile.
Ouais, c'est dans ce film-là qu'il y a une relation difficile avec son père, right?
C'est pas tellement une relation difficile, c'est qu'ils ont tous les deux une vision différente de comment les choses devraient être faites.
Dans le royaume, et, là, oui.
C'est ça, exactement. Le père veut qu'il se marie avec une princesse X pour solidifier le royaume, sécuriser le royaume, puis évidemment, son son adjoint, si on veut, veut la même chose. Donc, il fait partie des méchants, lui aussi, parce qu'il veut que Cendrillon s'en aille pour que le prince marie cette princesse-là. Mais le prince a rencontré Ella, puis Ella lui a dit t'sais, qu'il faut rester fidèle à soi-même, qu'on a... Il a vraiment, en fait, c'est pas elle qui a mis des idées dans la tête, c'est lui qui a rencontré quelqu'un qui pensait comme lui, puis que ça l'a comme conforté dans cette idée-là. Et quand son père, qui est mourant, va le voir, puis il dit à son fils, « Si je te forçais à marier la princesse X, son fils, il dit non. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, on a ce qu'on a dans le royaume. » Donc, et là, son père comprend et dit, « Trouve-la. Retrouve la princesse. » Mais tu vois qu'il y a un attachement à son père, il y a une relation, ils s'aiment, ils ne sont pas d'accord, mais ils s'aiment. Et son père, sur son lit de mort, en quelque sorte, embrasse l'idée que son fils est différent, il va faire les choses différemment que lui. Mais le prince lui-même ne change pas qui il est pour la princesse. Et même chose, ils vont juste se compléter. Ils vont juste aller chercher le meilleur des deux. Donc moi, c'est quelque chose... S'il y a une histoire d'amour à montrer à nos enfants, ce serait ce film-là.
Celui parce du que, remake en vraie personne.
Oui, puis on n'aborde pas la question du true love kiss. On n'aborde pas la question de est-ce que c'est de l'amour. C'est juste, il la cherche parce qu'il l'a vu, puis il y a un coup de foudre, puis tu sais, ça arrive dans la vraie vie. Ça arrive dans la vraie vie, ce genre
on
de choses.
On veut revoir quelqu'un, apprendre à le connaître, apprendre à quoi que ce soit, puis de. Tu sais, c'est pas nécessairement de l'amour, c'est de l'intérêt.
Exactement.
Tu sais, puis des fois, on va rencontrer quelqu'un qu'on va dire qu'on a eu un coup de foudre justement parce que, hey, cette personne-là, en l'espace de 15 minutes, m'a fait réaliser tellement de choses sur moi. Genre, attends un peu, genre comme, je veux en savoir plus, je veux en voir plus, je veux en connaître plus, autant sur moi que cette personne-là.
Puis on comprend que oui, elle a l'actrice qui fait Ella, elle est extrêmement jolie, ses beaux cheveux blonds et tout ça, mais quand elle va voir le prince, elle est habillée en haillons, puis il y a le narrateur en arrière qui dit « Il n'y a rien de plus épeurant que de se montrer tel qu'on est devant quelqu'un. » Et là, elle se regarde dans le miroir, puis elle fait « C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai à offrir. Est-ce que c'est à prendre ou à laisser? » Mais juste avant ça, juste avant cette scène-là, dans le fond, la marade découvre, elle dit « Je comprends pas comment t'as fait, mais elle comprend que c'est elle-là qui a monopolisé l'attention du prince au bal, que c'est elle que le prince cherche à tout prix. » Et elle dit « Tu vas rencontrer le prince, tu vas te marier, puis tu vas faire en sorte que moi, je devienne gérante de projet au château, puis mes filles, puis tout ça. » Puis elle a fait « Non. Je préfère me cacher et rester malheureuse ici, tout en sachant que lui est protégé de cette personne-là, de cette femme-là. » Donc, il y a le côté où, encore une fois, tant que ce soit un sauvetage héroïque, elle a sauvé le prince de pas grand-chose, mais elle a sauvé le prince, elle se sacrifie pour protéger le royaume, protéger le prince, pour... Sans parler de grand amour, bien, elle protège l'amour qu'elle a pour lui, puis elle va toujours chérir les souvenirs qu'elle a eu de lui.
Dans le fond, c'est de par ses propres convictions, elle protège les convictions du prince.
Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Puis la robe. La robe. Elle est plus belle, la robe. Elle a comme un peu tassé la robe de La Belle et la Bête.
OK.
Un petit peu. Parlant de La Belle et la Bête. Là, on a un peu passé... On a passé à travers la première génération de princesses. Donc, on partait vraiment d'une princesse qui disait pas grand-chose, qui faisait pas grand-chose, qui ne faisait qu'exister et qui devait attendre son prince. C'était carrément ça.
Oui.
La Belle et la Bête. Là, on passe dans la deuxième génération.
Mon film préféré de Disney.
Ça a l'air. Je m'en souviens pas, mais ça a l'air que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et que ma mère m'a amené le voir 4 fois.
Le nombre de fois dans ma vie où je me suis imaginé qu'avec mon amour des livres tout ça, que j'étais la belle, puis j'étais belle, puis tout ça. Finalement, plus tard, je me suis rendu compte que j'étais la bête, mais ça...
C'est ça que j'allais dire! Écoute, si j'avais eu un petit garçon, j'aurais voulu l'appeler Adam en honneur du prince. Parce que ceux qui ne savent pas, Adam, c'est le nom du prince. Voulez-vous savoir les noms des princes? J'y connais tous.
Il y en a un qui s'appelle Eric. C'est tout ce que je sais.
Savoir c'est quoi le nom du prince de Blanche-Neige?
C'est quoi?
Florian.
Ah, c'est beau!
Non.
Florian, c'est super beau! Ça fait super français!
Ouais, en tout cas. Donc, La Belle et la Bête.
Oui.
Dans la version originale de 1991, donc Belle, c'est une femme de caractère, elle rêve de liberté.
Puis à cause de ça, elle est considérée par tout son village comme étant weird puis bizarre.
Puis elle est instruite à sait lire.
Écoute, il trouve ça tellement weird puis bizarre qu'ils en font une chanson.
Écoute. Oui, je sais, je sais. Elle leur dit bonjour, puis les autres sont comme « weird ». C'est carrément ça, la chanson.
Oui.
Mais c'est
je veux de la saucisse. C'est mon bout préféré de la chanson. Je m'excuse. Oui.
Donc, c'est ça. Elle désire une vie de liberté, mais elle est instruite et très indépendante. Donc, son père est un inventeur. Il est dans sa tête et dans ses idées. Donc, Belle a la liberté d'aller venir comme elle veut et devant le gars de l'homme du village.
Puis c'est une rêveuse.
C'est ça. Devant le mâle typique. Excusez, il y a une mouche, du gars qui aurait pu lui assurer la sécurité pour le restant de ses jours, donc un foyer, la nourriture sur la table, 6 ou 7 chiens, hein? Chiens. Elle tourne le dos à cet homme-là parce qu'il ne correspond pas à ce qu'elle veut, puis elle est prête à juste renoncer à tout. Pour ne pas être avec lui, là.
On s'entend-tu que Belle a réalisé ce que Gaston était, soit le douchebag de cette époque?
Exactement. Dans la version 2017 avec Emma Watson, le personnage est très fidèle. C'est le même genre de caractère. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport au personnage de Belle, parce que selon moi, c'est un personnage qui est déjà complet, qui a des belles valeurs, qui a des belles... des beaux rêves. Dans la nouvelle version, bon, la bête, on en apprend plus aussi sur son histoire. Pourquoi elle est devenue comme ça? C'est ce que j'aime beaucoup de son film, de ce film-là. On parle de pourquoi personne n'a vu le château géant qui est à 20 minutes de cheval de là.
Comment ça se fait que personne n'est au courant que c'est là, genre, ouais.
C'est ça. Donc, on donne un peu plus d'explications par rapport à l'histoire. On parle un peu plus de la mère de Belle, pourquoi le père est arrivé là. Son père, qui, sans vouloir la forcer, lui propose de, tu sais, Gaston. Pourquoi pas Gaston? Parce que dans sa tête, probablement Gaston représente justement la sécurité pour sa fille, pour quand lui sera plus là. On garde beaucoup le classique visuel de l'original. Donc, les grands châteaux, les grandes robes, ce qui scintille, les grands espaces. Quand elle court, puis elle dit « Je veux m'envoler dans le bleu de l'espace. » Par contre, on reste dans le Stockholm Syndrome.
C'est le gros problème de cette histoire-là. Genre.
Oui, mais comme j'ai dit tantôt, on ne réécrit pas un classique. On peut juste essayer de rendre l'histoire un peu plus moderne de la façon que moi, j'ai décidé de le voir.
Ouais.
De la façon que moi, j'aime voir l'histoire, c'est que Belle, bon, oui, elle est retenue prisonnière par la bête parce que son père a volé une rose, ce qui, en passant, est le prétexte de l'histoire originale, là, l'histoire de Gris. C'est ça qui est arrivé, il volait une rose, c'est un voleur. Bon, elle prend sa place. Donc, il y a le côté du sacrifice, la princesse qui se sacrifie elle-même, le don d'elle-même pour son père. Quand elle fait le ménage dans le château, moi, je le vois plus comme un gars, j'ai rien d'autre à faire. Il n'a pas montré à la bibliothèque encore, fait qu'elle ne peut pas lire. Fait que j'ai rien d'autre à faire. Fait que tant qu'à faire, on va s'occuper, on va... j'avais lu à un moment donné une interview vite de Emma Watson, puis tu sais, dans le film, le Disney bonhomme, la petite Belle apporte des bottes, des petites ballerines, puis robes et tout ça. Alors qu'Emma Watson, elle a dit non, Belle, elle va porter des bottes. C'est une écuyère. Elle monte à cheval, elle se promène dans la nature, dans le village et tout ça. Ça y prend des chaussures confortables, ça y prend une robe pratique, ça y prend, tu sais, des fois, elle remonte sa robe pour que ce soit moins encombrant. Donc, Il y a un côté un peu plus...
réaliste.
Réaliste de qu'est-ce que le personnage aurait besoin, qu'est-ce qu'elle ferait dans ces moments-là. Il y en a qui disent que, bon, elle est tombée en amour avec son séquestreur.
Oui.
D'un autre côté, de la façon qu'on peut le voir, c'est à travers ça, ils ont appris à se connaître et ils ont découvert que l'autre personne était ce dont ils avaient besoin. Belle n'arrête pas d'avoir du caractère. Même quand elle sauve du château, même quand... il y a le bout, le prince va la sauver. Le prince, la bête, va la sauver des méchants loups, la ramène au château. Mais à quelque part, elle revient un peu par elle-même. Donc, ouais. Moi, je trouve que c'est plus elle comprend la détresse, elle comprend, elle voit le côté plus humain de la bête qui, jusqu'à date...
avait pas montré de côté humain, juste des côtés comme agressifs.
Ben, c'est un peu comme si la bête se disait « Les gens vont voir juste une bête, je me donnerai pas la peine d'agir autrement. » Alors que là, elle voit comme « OK, il y a quelqu'un en arrière de ça. » Excusez.
C'est moi, là, où j'ai eu un problème avec La Belle et la Bête. Comme je te dis, moi aussi, c'est mon film préféré, puis j'essaie de le voir comme étant une romance, quelque chose de beau, puis j'essaie de mettre ça beau dans ma tête aussi. Mais il y a aussi ce côté-là où la bête est quand même très agressive, très tout ça, puis Belle est quand même obligée de marcher sur des œufs autour de lui, souvent, tout ça, nanana. Puis je trouve que ça donne un peu un côté... qui montre que certains aspects de la violence conjugale peuvent être normales pour, comme dans une relation amoureuse. Puis ça, c'est un petit côté qui me dérange un peu. Fait que, tu sais, c'est de dire qu'un homme agressif a des raisons d'être agressif. C'est le côté, moi, qui me dérange un petit peu.
Non, c'est ça, exactement. Puis le côté de ton amour va le changer.
Oui.
Qui amène ça aussi. Effectivement, c'est un gros sujet dans ce film-là, parce que justement, la bête, elle est très agressive, et c'est justement important avec des jeunes, avec des enfants, de dire « c'est pas normal, c'est un contexte de film, c'est un animal. Mm-hmm. » Donc, c'est pas normal, mais dans la vraie vie, quelqu'un qui agit comme ça, ce n'est pas normal.
Ce n'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable, exactement. Sauf que on va se souvenir que quand il va cogner à sa porte en disant « Vous allez souper avec moi », elle refuse catégoriquement de sortir. Elle ne plie pas à sa demande parce que, justement, il est agressif.
Oui.
Il est allé demander gentiment, elle a dit non. Au lieu d'accepter son non, il a monté le ton, mais elle a continué, elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non. Donc, la relation se bâtit plus, justement, après le moment où elle la sauve et il vient le sauver. Elle découvre un côté un peu plus humain de lui, donc lui décide de s'ouvrir plus en disant « Elle voit plus à moi, donc je vais lui montrer qui je suis. » La bête a un sens de l'humour. Il est instruit. Il est capable d'être gentil avec les gens autour de lui. Encore une fois, ça revient à l'idée de la violence conjugale puis d'un caractère violent, mais aussi, je trouve, on peut l'aborder aussi comme la maturation.
Okay.
On nous montre l'histoire... C'est qu'on nous montre l'histoire du jeune garçon qui a été élevé par un père carrément sauvage, carrément cruel, et qu'éventuellement, ben, il s'est calqué sur ce caractère-là. Et avec le soutien des bonnes personnes, il arrive à changer son comportement. Parce que oui, ça se peut changer son comportement violent. C'est juste extrêmement difficile. C'est un travail de longue haleine. Mais il faut le faire. Il faut vouloir le faire. Mais faut pas rester avec quelqu'un comme ça par amour, mais ça, c'est un autre, okay. Un autre sujet. Par contre,
oui.
ce que j'aurais aimé, parce qu'au début du film, Belle, c'est elle veut de l'aventure, elle veut s'envoler, elle veut elle s'échappe dans les livres à travers le monde. C'est pas quelqu'un de sédentaire. Évidemment, la scène de la fin où il danse dans sa grande robe, dans le château, ça fait partie de l'histoire et tout ça, et c'est une très belle fin. Mais je trouve que ça dépeint d'elle comme si elle avait renoncé à ça d'elle-même.
Bien, en même temps, moi, j'aime m'imaginer que justement, maintenant que le prince est redevenu humain, que lui non plus est plus séquestré dans le château, j'aime à penser que ça leur va leur donner la chance de vivre des aventures en dehors, oui. Ensemble, tu sais.
Donc, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'ils fassent une scène cachée, comme dans les films de Marvel, de, mettons, Belle et Adam qui se préparent à partir en voyage, ou Belle et Adam sont sur un bateau, ou à Paris, ou des choses comme
quelque
ça.
Quelque part, tu sais.
Oui, puis dans le nouveau film, on se souviendra peut-être pas tous, mais ceux qui sont attentifs, la petite joke sur les fils, les livres en grec, elle demande, vous avez tout lu, puis certains de ces livres sont écrits en grec. Mais je trouve que ça aurait été un beau comeback sur ce running gag-là, de il arrive en Grèce, puis bon, finalement, j'aurais peut-être dû les lire, les livres, des choses comme ça. Donc, j'aurais été beau, j'aurais trouvé ça le fun de voir cet ajout-là, de nous ramener Belle de, oui, elle a trouvé son prince, oui, elle s'est mariée, vécu heureux, beaucoup d'enfants, mais elle n'a pas renoncé à ses rêves, elle n'a pas renoncé. Ça aurait été une petite touche intéressante, je pense, de rajouter ça dans le nouveau film, juste pour donner un petit clin d'œil.
OK. Puis moi, j'ai aimé le clin d'œil qu'ils ont fait au fait que l'ami de Gaston est homosexuel. Moi, j'ai adoré ça, même si les parents se sont levés contre Disney, là. Mais bon, moi, j'ai aimé ça.
Oui, c'est une petite touche humoriste. C'est apporté de façon humoristique, je trouve, avec beaucoup de goût, sans donner trop de fla-fla, sans donner trop de place à ça, parce que c'est pas...
C'est pas le but de l'histoire. C'est ça.
Pas ça, l'histoire.
Oui.
Bon, là, on change de film. On a fait le tour de celle-là, malheureusement, déjà.
Je veux juste aviser qu'il va falloir quand même aller un petit peu plus vite sur chacun
des films. Oui, on est resté un peu plus longtemps sur La Belle et la Bête.
Oui, parce que le fait qu'on aime tous les deux beaucoup ce film-là, ça doit être pour ça.
Exactement. Le prochain sur la liste, c'est Aladdin. Aladdin, c'est le premier film qui met le prince de l'avant.
Ce film-là, OK, excuse-moi, il y a trois films de Disney que j'aime pas dans la vie. Aladdin, Le Livre de la Jungle, puis Mulan. Ces trois films-là, pas capable. Par contre, j'ai vu le remake en vrai humain et ça m'a fait aimer Aladdin.
Oui, oui. Même chose. Moi, non plus, c'est pas mon film. C'est pas le film que je déteste le plus, mais c'est pas mon film préféré. Jasmine, dans la première histoire, parce que là, on aborde beaucoup l'histoire de la princesse, même si dans Aladdin, c'est plus l'histoire du prince là, qu'on écoute. Jasmine, c'est un peu est prisonnière de sa cage dorée, puis elle s'imagine donc que sa vie est misérable, mais elle connaît rien des murs extérieurs, elle est jamais sortie du château. Son père, c'est comme si c'est son petit oiseau, puis il veut pas qu'elle sorte, il veut pas qu'elle s'envole.
Ah,
on
revient
dans le contexte, on est en Arabie. Hein?
Ouais.
On est dans un pays qui est plus que jamais patriarcal. Donc, puis elle doit obtenir la permission de son père pour se marier avec quelqu'un de moins bien établi qu'elle. Tu sais, faut qu'elle une classe sociale inférieure, mais de beaucoup.
Oui, puis c'est son père qu'il faut qu'il choisisse avec qui elle va se marier aussi.
Exactement. Tu sais, on dirait que le père, il veut le bien de sa fille, mais il est partagé entre les traditions qui se perpétuent depuis des années versus ce que ma fille que j'aime veut.
C'est comme aussi un petit peu son « je vais te donner le choix, mais dans les choix que je décide ».
C'est ça, exactement. Question, choix de réponse, mais c'est moi qui écris la question.
C'est ça. Dans le remake, le prince que son père veut est tellement niaiseux. Je m'excuse. Excuse. J'ai c'est des correct. Images de lui là, qui je suis juste comme...
Mais c'est ça. Donc, c'est tout le contexte où ce que Jasmine dépend de... Il faut qu'elle se marie à un prince pour que le prince devienne le sultan. Pour... Bon. Dans le film de 2019 avec Will Smith, bon, encore une fois, on donne plus de profondeur au personnage. Parce qu'on est encore dans la deuxième génération des princesses avec plus de personnalité, mais qui se définissent encore beaucoup par le prince. Ça prend le prince pour qu'elles aient un purpose in life. Là.
Mais j'ai aimé que dans le remake, justement, ça soit plus genre comme Aladdin pense qu'elle, ce qu'elle veut, c'est un prince, mais elle, c'est pas ce qu'elle veut. Elle, elle veut un gars comme Aladdin, genre.
Ben, c'était déjà
le début, tu sais.
C'était déjà ça dans la première version, sauf que c'est plus mis de l'avant dans la deuxième. Et on a sauté, puis j'ai aimé ça qu'on saute cette scène-là de braillage avec son tigre, où ce qu'elle s'en va en passant par-dessus. Tu te rends compte, Colin, t'aurais pu te sauver il y a longtemps, là. Je veux dire, c'était pas si compliqué de sauter par-dessus le mur. oui, on a encore le côté un peu cage dorée, sauf qu'on voit que c'est pas tant qu'elle est malheureuse où elle est, c'est qu'elle se sent prisonnière de sa condition de femme.
Et on rajoute une... Elle...
Ils ont rajouté la chanson où, justement, elle parle de sa voix, de son besoin de s'exprimer, comme quoi qu'elle se taira pas. Donc, on a donné vraiment à Jasmine un personnage solide, qui a des convictions, qui, elle, elle veut aider la pauvreté à l'extérieur des murs, elle veut... Tu sais, on la rencontre, elle est déjà sortie.
Oui.
Elle est déjà sortie, elle est déjà rendue là. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Puis, le plus gros changement, je trouve, dans le film, et ça, j'ai adoré, elle n'a pas besoin de la permission de son père pour marier Aladdin. Elle a besoin de la permission de son père pour devenir sultan. Parce que c'est ça qu'elle veut. Elle ne veut pas se marier pour que son mari dirige. Elle veut diriger. Et encore une fois, son père est partagé entre les traditions et l'amour de sa fille. Et donc, à la fin, il dit « Oui, tu seras le prochain sultan. » Donc, c'est de donner à Jasmine le pouvoir de dire je dirige, je vais me marier avec qui je veux, et la personne que je vais choisir ne sera pas la personne qui va guider le pays, je serai cette personne-là, et Aladdin va être mon compagnon, va m'aider dans ma tâche de sultan, mais c'est moi. Donc, c'est vraiment, on redonne tout le pouvoir de Jasmine entre ses mains, elle devient carrément l'égale de l'homme. C'est que ça. Ça prenait l'autorisation de son père, oui, je comprends, sauf que à quelque part, justement, son père fait « Je te redonne ta liberté, je te l'avais pris, mais je te la redonne, et à partir de maintenant, tu es mon égal, tu es mon successeur, et c'est toi, c'est vers toi que les gens vont se tourner. Tu es capable. »
Mais même le bout dans le film où tu disais la chanson, justement, parle de sa voix, puis que, tu sais, tout ça se passe dans sa tête, puis que c'est le moment où elle a à faire le choix. Est-ce que je me tais puis que je deviens la femme qu'on me force à être? Ou est-ce que je me lève puis je deviens la femme que je veux être? Et ce bout-là, c'est tellement beau dans le film, là. Écoute, je le regardais puis j'étais...
Puis c'est important de parler aux jeunes filles de cette façon-là, mais c'est important aussi qu'on fasse comprendre aux petits garçons, toi aussi, cette chanson-là, ce moment-là t'appartient à toi aussi parce que toi aussi, tu as le droit à ça. Tu as le droit d'être la personne que tu veux être et non pas juste ce qu'on attend de toi comme garçon.
Exactement.
Bon.
Pocahontas.
Pardon?
Pocahontas.
Yes. Là, on va passer aux films qui n'ont pas eu de remake. Donc, on est encore dans la version originale. Là, on va aborder plus, bon, qu'est-ce que ce film-là a de bon, puis qu'est-ce qu'il y a un peu de moins bon. Donc, Pocahontas. Bon, oui, il y a eu des films qui ont été faits de cette histoire-là, mais pas dans le domaine de Disney. Donc, je les aborderai pas vraiment. Pocahontas, bon, c'est la fille du guerrier, du chef du village. Donc, oui, c'est la princesse, c'est la prochaine en ligne, et c'est la même histoire que toutes les autres princesses. Il faut qu'elle se marie avec le meilleur guerrier du village pour maintenir la tradition, pour toutes ces choses-là. Bon, c'est sûr que là, on tombe vraiment dans de la magie. Là. Une Amérindienne de Virginie versus John Smith qui arrive d'Angleterre, ils ne parlent pas le même langage, mais ils se comprennent. On a introduit la magie, l'idée que c'est deux âmes qui communiquent ensemble et non pas juste deux personnes. Mais on s'entend qu'on a un raton laveur puis il y a une oiseau-mouche qui comprennent ce qu'on leur dit puis qu'il y a un soul qui parle.
Oui.
Restons dans... C'est de la magie.
Oui.
Le personnage Pocahontas, donc, elle aussi, elle est partagée un peu avec la tradition, mais elle veut aussi faire sa propre place. Elle ne veut pas marier Coco-Oum. Sans vouloir nécessairement marier John Smith, l'histoire développe une histoire d'amour entre ces deux-là et elle est prête à se sacrifier, à sacrifier sa vie. Oui, pour son amour, mais aussi pour son peuple, pour éviter la guerre. Elle en vient à ça et pour raisonner son père qui est dans la violence, dans le combat des deux clans et tout ça. Et elle veut perpétrer un message d'amour. Donc moi, je trouve que c'est une belle philosophie de dire « La guerre ne nous mène à rien, la haine ne mène qu'à la désolation. Moi, je choisis un chemin d'amour. » Par contre, quand John Smith est blessé et s'en va en retour en Angleterre, Pocahontas doit choisir entre l'amour qu'elle a pour John Smith et son peuple, et elle choisit de rester. Et moi, je trouve que c'est aussi un autre message d'amour. Elle va laisser de côté l'amour amoureux pour l'amour qu'elle a pour sa famille, pour ses gens autour d'elle. Il y a le côté du sacrifice d'elle-même qui revient malheureusement quand même. Il faut qu'elle choisisse entre un et l'autre. Mais il y a le côté justement où ce que non, ben elle finit pas mariée avec son prince charmant. Non, c'est pas une histoire qui se termine comme ça. Elle reste elle-même à travers ça.
Elle choisit ses racines.
Exactement. Puis c'est elle qui fait ce choix-là. Donc, le prince, John Smith, dans ce cas-ci, ne récupère pas la princesse. Puis, sans vouloir aller dans le deuxième film, qui était clairement pas aussi bon, mais quand il réapparaît, ben, il est trop tard. Elle n'est plus en amour avec lui. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mmh. Tu sais, il y a ce côté-là aussi un petit peu que j'ai aimé. Dans le cas de Mulan, que tu n'aimes pas, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Premièrement, j'aime les chansons. Deuxièmement, le général Lee, il est hot. Puis là, c'est ça. Là, il y a le côté où ce qu'ils vont dire, Mulan, il a fallu qu'elle devienne un homme pour se faire valoir. Si on remet ça dans son contexte en Chine, où la femme est carrément vue comme un fardeau, la femme ne sert qu'à marier à un homme pour consolider les familles. C'est carrément que ça, là. C'est un pion sur un échiquier. Si tu remets ça dans son contexte, Mulan est une femme extrêmement brave qui met sa vie, sa propre vie en danger pour sauver son père. Puis moi, ce que je trouve beau là-dedans, puis c'est un message qu'on devrait communiquer aux jeunes filles, c'est, regarde, elle était pas entraînée, là. Elle avait jamais tenu une épée de sa vie. Elle s'en va là-bas, elle se fait passer pour un homme, puis elle éclenche tout. Je veux dire, éventuellement, c'est même elle qui les motive quand elle réussit enfin avec son intelligence. Là, on compare la force brute à, OK, elle a réfléchi, elle a trouvé la solution pour aller chercher la maudite flèche en haut du poteau. Au moment où elle était prête à tout abandonner, elle s'est dit non, non, j'abandonnerai pas, je suis pas venue ici jusqu'ici pour rien. Elle s'est battue, puis elle a gagné. Puis là, ben, à partir d'un moment-là, elle a gagné le respect de ses confrères. Elle aurait été capable, puis elle est capable de se battre comme un homme. Elle est capable de tirer comme un homme. Elle est capable de monter à cheval comme un homme. Donc, il y a vraiment ce côté-là où si tu mets de côté le côté que c'est une femme, ben elle est capable. Puis plus que beaucoup de monde là-dedans. Ouais. Après ça, on va dire, oui, mais à la fin du film, quand la guerre est finie, elle retourne à sa petite vie rangée. Ouais, mais un soldat aussi va faire ça. N'importe quel soldat, quand la guerre est finie, il retourne à sa famille, il retourne à être fermier, il retourne à être forgeron, il retourne à faire qu'est-ce qu'il faisait avant. Et le général Lee, dans cette histoire-là, il tombe en amour avec Mulan, mais il tombe avec la vraie Mulan, c'est-à-dire pas la petite fille parfaite qu'on essaie de construire pour la marier chez la marieuse avec son maquillage. Il tombe avec la guerrière, avec la fille qui s'est battue, qui a sauvé son pays.
Tu vois, moi, l'affaire qui me gosse avec ça, le général Lee tombe pas en amour avec Mulan. Il tombe en amour avec la version mâle de Mulan. Et quand il se rend compte que c'est une femme, c'est « Oh, thank God, you're a woman, I'm not gay, genre. » Et ça, c'est une des affaires qui m'a tué, genre.
Mais tu vois... Parce que moi, je le vois pas comme il tombe en amour avec Ping. Il y a du respect pour cette personne-là.
Ah non, tu peux le voir. Même dans le dessin animé, tu peux le voir, là, comme... Il y a quelque chose par rapport... Tu le vois. Essaye de le réécouter puis de porter attention à ça, là. Spécifiquement, là. Tu le vois qu'il est en train de développer. Il y a des gestes qui fait que, genre, des bros feront pas, genre. Tu comprends ce que je veux dire?
Non. Mais écoute, moi, c'est ma façon à moi de voir le film. Toi, ta façon, mais
oui.
Encore une fois, dans l'idée, c'est comment tu veux que ton enfant regarde le film. C'est comme ça que tu vas y montrer. Oui. Moi, de la façon que je le vois, c'est que le général Lee avait énormément de respect pour Ping parce que c'est quelqu'un qui, malgré qui partait visiblement de plus loin, qui était plus maladroit, qui était plus faible, bon, mais il a réussi à surpasser ça puis à devenir un des meilleurs. Quand il apprend que c'est une femme, ben oui, il est déçu parce que il vit dans la tradition où ce que les femmes, c'est rien, puis les hommes, c'est tout. Donc, encore une fois, c'est une question de contextualiser le film.
Ouais.
Mais quand il va voir Mulan, je ne parle pas que c'est de l'amour, le grand amour, je veux dire, mais il est tombé en amour avec la version de Mulan qui était quand même la plus naturelle. Elle n'avait pas besoin de prétendre, elle n'avait pas besoin de rester rangée. Elle pouvait donner son opinion ouvertement, elle pouvait dire ce qu'elle pensait. C'était pas toujours bien reçu, comme quand n'importe qui donne son opinion, mais elle se sentait à l'aise de le faire. Et le général Lee a appris à respecter cette opinion-là. Ils ont fait un deuxième film de Mulan. Puis encore là, je ne veux pas tomber dans le deuxième film, mais là, on l'aborde beaucoup plus comme la femme guerrière. Okay. Là, elle n'a pas besoin de devenir un homme. Elle reste Mulan. Elle part avec le général Lee. Ils ont une mission ensemble. Ils ont des conflits en tant que couple. Il finit par se... Tu sais, il y a d'autres...
Il y a plus de choses. T'sais.
C'est ça. Mais moi, je veux vraiment qu'on s'attarde au classique. Là, mais ouais. On a gardé le contexte. Puis à la fin... L'empereur dit à Mulan carrément, si tu veux le poste de mon second, je te le donne. Il reconnaît Mulan pour ses capacités, il s'en fout que c'est une femme. Il reconnaît Mulan pour qu'est-ce qu'elle a fait, puis visiblement c'est une femme qui est intelligente, puis comme je m'en fous que tu es une femme, si tu le veux, je te veux. Et elle, elle fait non, je veux retourner à ma famille. Donc c'est encore une fois, Mulan s'est fait offrir quelque chose que aucune autre femme aurait eu, et elle a été, ça lui a été offert parce qu'elle a montré des capacités et elle choisit elle-même de retourner à sa famille. Et quand le général Lee vient la visiter chez elle, ben, elle est juste contente de le voir parce qu'elle, elle a flashé, je veux dire, regardez le body, moi aussi, j'aurais un petit peu trippé dessus, mais c'est encore le contexte. Il n'y a pas question de mariage, il est question qu'il vient la voir pour prendre, tu sais, resteriez-vous à souper. Donc, je trouve qu'on aborde quand même une relation qui est un petit peu plus...
relax, un peu plus...
Normal. Un peu plus, on va dire, normal. Là, ouais. Justement, on va se fréquenter, tu vas apprendre à connaître ma famille. Là, on a fini la deuxième génération. Fait qu'on va aller vite, vite, vite à travers la troisième.
Oui.
Parce que c'est sur celle-là que j'en ai le plus à dire.
Oh my God! Fait qu'on va vite.
Au pire, tu feras un coupage, puis on fera un deuxième épisode pour la troisième génération tout seul.
Ben, écoute, sérieusement, moi, je trouve que c'est une excellente idée, en fait. Donc, on va faire une part 2 à cette vidéo-là que vous allez voir la semaine prochaine. Donc, on va quand même donner un petit conseil de la semaine avant de partir. Moi, je vais donner mon conseil et après ça, tu donneras le tien. Mon conseil, c'est si vous avez une chance de vous commander à manger chez Le Gras Dur. C'est un magasin qui font des burgers. Ils ont des burgers vraiment originaux. J'ai commandé un hamburger, beurre de peanut et sriracha. Et c'est une des meilleures choses que j'ai mangées de toute ma vie. Je vous le recommande fortement. Ce n'est pas sponsorisé. C'est vraiment juste moi qui vous dis, j'ai trippé à manger là. Marjolaine?
Ben moi, je vais aller un petit peu politique. Mon conseil, c'est mets ton masque!
Et on se revient la semaine prochaine où moi et Marjo, on continue notre conversation, mais cette fois-ci sur les orteils
des Schtroumpfs. Oui, les orteils. Mes orteils.
Exactement.
Oui, oui.
Donc, oh my God! Là, tu vas faire des fétiches, des fans de fétiches de pieds vraiment contents.
C'est correct, j'aime ça.
Ceux qui sont fétiches de pieds et qui écoutent à l'oreille, allez voir la vidéo sur YouTube. Bye bye.